a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, galérienne, galérien, et oui, auditrice, auditeur de Radio Galère, nous sommes à Marseille le mercredi 23 juillet 2025. Et c'est Livres et Amis avec aujourd'hui Dominique toute seule, mais quand même Jules derrière la vitre à la technique, parce que Françoise est à Avignon. Moi, j'y retourne après-demain. C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent, comme d'habitude, au Festival d'Avignon, plein de choses intéressantes qui se passent à Arles aussi. Et puis à Marseille, ben, j'ai la brochure sous les yeux, l'été marseillais avec des projections de cinéma en plein air, des concerts en plein air aussi, des tas d'activités pour les enfants, des marchés, des choses de ce genre. Ah oui, il y a la visite de la digue du large aussi, il faut que je me penche sur la question, je voulais y aller l'année dernière, je n'y suis pas allée. Il faut s'inscrire hein, pour aller voir la digue du large d'un peu plus près ou un peu plus au large, le mercredi et le samedi matin. Et puis donc un certain nombre de rencontres, de festivités diverses autour de la mairie, autour du château Borély, autour de la friche bien sûr, puisqu'il se passe aussi plein de choses à la friche. Alors, allons-y, c'est l'été à Marseille, profitons-en parce que, bah, comme d'habitude, c'est pas génial ce qui se passe dans le monde, quoi. Je pensais la semaine dernière, avec mes petites filles qui jouaient tranquillement dans l'eau sur la plage, que, bah non, les Gazaouis ou les enfants Gazaouis, ils n'allaient pas à la plage parce que c'était interdit. Et ils continuaient à mourir de faim. Donc, c'est vrai que quand on joue avec les petits-enfants ici à Marseille, ben, on ne peut pas faire autrement que de penser aux petits-enfants qui meurent dans des circonstances affreuses ailleurs. Mais ça ne nous empêche pas de vivre. Alors, essayons de continuer à lutter, camarades. Mais tout de même, n'oublions pas les autres et pensons à la chance que nous avons de vivre dans un pays en paix. Même si ce n'est pas toujours la panacée, la merveille et que nos gouvernants continuent à nous sortir, je dirais bien sans conneries à l'heure, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Il faut rester poli. Donc, ils continuent à nous pondre des bêtises à leur rythme habituel, disons. Eh bien, nous, à propos de pondre, nous allons nous intéresser à l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler. Vous connaissez sûrement cette histoire, c'est un conte, pourrait-on dire, un conte moderne ou contemporain de Luis Sepúlveda. Alors de Luis Sepúlveda, bien sûr, vous connaissez le vieux qui lisait des romans d'amour, d'ailleurs on l'a lu ici aussi. J'y reviendrai peut-être, je vous le mettrai peut-être en rediffusion au mois d'août, à un moment où je ne serai pas là, enfin bon. Luis Sepúlveda, c'est un camarade du bout du monde, un Chilien né en 1950, mort hélas en 2020 des suites du Covid. Mais en tout cas, oui, un étudiant qui pour son militantisme a été emprisonné dans les geôles de Pinochet, comme ils disent là-bas, et qui, après y avoir passé 2 ans, a quand même été libéré avec l'aide d'Amnesty International. Et a beaucoup voyagé, donc il a été vivre par exemple chez les Indiens Shuar en Amazonie, c'est pour ça qu'il a écrit ensuite Le Vieux qui lisait des romans d'amour. Et puis il a été vivre, je pense, une quinzaine d'années à Hambourg, et donc c'est un petit peu de cette vie à Hambourg qu'est née l'histoire de la mouette, on y revient. Et puis, il a été vivre dans les Asturies et il n'a cessé, tout en vivant en Espagne, d'écrire sur le Chili. le Chili de son enfance, de son adolescence et le Chili de son âge adulte sous la botte de Pinochet. Donc, moi, c'est un écrivain que j'aime bien son style. Vous savez que j'aime bien la lecture précisément pour des histoires de style. Alors, l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, c'est paru aux éditions Métallier, d'abord. Ça s'est paru aussi dans une édition avec illustration de Miles Hyman. J'ai pas trouvé cette édition, j'aurais bien aimé voir les illustrations. Tant pis. Sinon, donc, c'est paru plein de fois dans plein d'éditions différentes, puisque ça a eu, comme le vieux qui lisait des romans d'amour, beaucoup de succès et que ça a été édité et réédité dans de très nombreux pays. Et l'idée m'est venue de vous le lire presque en entier, parce que vous savez, l'été, souvent, je lis des nouvelles. Et finalement, l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, c'est un peu comme une très longue nouvelle ou un très court roman. Et à propos de... en cherchant un petit peu ce qui se passait à Avignon aussi, j'ai trouvé un enregistrement sonore de ce court roman, donc, par Pierre Maillet de la Comédie de Colmar. Et je me suis dit, puisque ça peut se lire comme ça, là, tranquille, première partie 46 minutes, deuxième partie 62 minutes, on va essayer de se refaire un autre découpage. Mais on va faire ça sur deux émissions à Radio Galère et donc dans Livres et Amis. Alors, Livres et Amis avec la mouette et le chat qui lui a appris à voler. Aujourd'hui, partie 1 et la semaine prochaine, j'espère que nous serons tous encore là, partie 2. Comment est-ce que ça commence? Ça commence déjà par une dédicace de Luis Sepúlveda à ses enfants. Parce que tout de même, Luis Sepúlveda, il continue à vivre, on pourrait dire, en équipage, enfin du temps où il était vivant, bien sûr. Et il nous dit que ses enfants, c'était le meilleur équipage dont il ait pu rêver. Alors, je souhaite à tout le monde, en effet, que vos enfants soient le meilleur équipage dont vous puissiez rêver. Moi, c'est un peu le cas. Alors, hommage à nos enfants qui sont là pour continuer à se battre et à construire un monde meilleur. Donc, ça y est, c'est parti, l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Premier chapitre, Mer du Nord. Bon de harengs à bâbord, annonça la vigie. Et le vol de mouette du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elle volait sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leurs forces. Et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs? Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elle voyait les bateaux à la queue leu-leu comme des animaux marins patients et disciplinés qui attendaient leur tour pour gagner la pleine mer et de là mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, notre héroïne, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux, car elle savait que chacun représentait une façon de parler et de nommer les choses avec des mots différents. « C'est bien difficile pour les hommes, » dit-elle à sa camarade un jour. « Nous, les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier. »« C'est comme ça, » répondit sa camarade. « Tu sais, le plus étonnant, c'est que, même avec leurs langues variées, ils arrivent quelquefois à se comprendre. » Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de harengs. 120 corps de mouettes trouèrent la mer comme des flèches et en ressortant de l'eau, chacune d'elles tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Helder, où les rejoindraient les vols des îles Frisonne. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche, où elles seraient rejointes par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo, en compagnie desquelles elles voleraient jusqu'au ciel de Biscaye. en Biscaye, oui, elle serait alors plus d'un millier. Et on verrait passer comme un rapide nuage d'argent grossi encore par les bandes de Belle-Île, d'Oléron, du cap Machichaco, de l'Apio et du cap de la Peñas. Lorsque toutes les mouettes autorisées à se regrouper sur la mer et sous les vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers de la Baltique, du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Ce serait une belle réunion. Kenga y pensait en pêchant son troisième hareng. Comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celle des mouettes du cap de Peñas, voyageuses infatigables, qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries et même jusqu'aux îles du Cap-Vert. Les femelles feraient de grands festins de sardines et de calamars pour se reconstituer, pendant que les mâles construiraient les nids au bord des falaises. Alors les femelles y pondraient leurs œufs, les couvraient à l'abri des menaces, et quand les premières plumes résistantes pousseraient aux poussins, aux jeunes, viendrait alors la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga songeait et plongea pour attraper un quatrième hareng. Elle n'entendit donc pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. « Danger à tribord ! Décollage urgent !» Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau, elle était seule sur l'immensité de l'océan. Ça, c'est le premier chapitre. Vous voyez, on est bien situé là, avec nos mouettes qui se rassemblent, qui parlent, qui tiennent convention, qui connaissent la démocratie, etc. C'est bien à l'image de ce conte, on l'a dit, de ce conte qui est un conte des temps modernes, mais pour compenser toutes les horreurs du monde, qui fait la part belle à l'écologie, qui fait la part belle justement à la démocratie, dans lequel les gentils sont récompensés et les méchants punis. Et donc, un conte comme on aimerait bien le vivre au jour le jour dans notre monde. Alors, reprenons avec le deuxième chapitre qui nous présente un chat grand, noir et gros, qui vit à Hambourg et qui, ce jour-là, va prendre congé de son petit maître, ou plutôt son petit maître va prendre congé de lui puisqu'il part en vacances. « J'ai beaucoup de peine à te laisser tout seul, » dit l'enfant en caressant le dos du chat grand, noir et gros. Puis il continua à remplir son sac. Il prenait une cassette. Cette cassette, il l'aimait, il la rangeait, il hésitait, il la sortait. Ah, il ne savait pas s'il remettait dans le sac encore une cassette, encore une autre, un livre peut-être. Il n'arrivait pas à décider ce qu'il allait emmener en vacances et ce qu'il allait laisser à la maison. Le grand chat, noir et gros, le regardait avec attention, assis sur le bord de la fenêtre, son endroit préféré. « J'ai pris mes lunettes pour nager. Toi, Zorbas, tu n'as pas vu mes lunettes ?»« Oh, écoute, si, tu les connais, mes lunettes pour l'eau, même si tu n'aimes pas l'eau. »« Enfin, tu ne sais pas ce que tu perds. La natation, c'est vraiment un des sports les plus amusants. »« Un petit peu de croquettes ?» proposa l'enfant en prenant une boîte de croquettes pour chat. Et il lui en servit une ration bien généreuse. Le chat grand, noir et gros se mit à mastiquer lentement pour faire durer le plaisir. Ah, quelle croquette délicieuse, craquante, au bon goût de poisson. C'est vraiment un garçon formidable, pensa Zorbas, le chat grand, noir et gros. C'est un garçon formidable, oui. C'est le meilleur même, corrigea-t-il en avalant ses croquettes. Zorbas, le chat grand, noir et gros, avait de bonnes raisons de penser cela de cet enfant. Il dépensait son argent de poche en délicieuses croquettes, qui nettoyait la litière de la caisse régulièrement et qui l'instruisait en lui parlant de toutes les choses importantes du monde qui les entourait. Ils passaient ensemble de longues heures sur le balcon ou devant le balcon à regarder l'activité incessante du port de Hambourg et, par exemple, le garçon lui disait « Tu vois ce bateau, Zorbas. Tu sais d'où il vient ? Du Libéria, un pays d'Afrique très intéressant parce qu'il a été fondé par des hommes qui avaient été des esclaves. Quand je serai grand, je serai capitaine d'un grand voilier et j'irai au Libéria. Tu viendras avec moi, Zorbas. Tu seras un bon chat de mer, j'en suis sûre. » Comme tous les enfants des ports, ce garçon rêvait de voyages dans les pays lointains. Et le chat, grand, noir et gros, les comptait en ronronnant. Et il se voyait bien, lui aussi, à bord d'un voilier sillonnant les mers. Oui, le chat, grand, noir et gros, avait beaucoup de tendresse pour le garçon. Et il n'oubliait pas qu'il lui devait la vie. C'était une dette qu'il avait contractée le jour où il avait quitté le panier dans lequel il vivait avec ses 7 frères. Le lait de sa mère était tiède et doux, mais lui, il voulait goûter ces têtes de poisson que les gens du marché donnaient au grand chat. Il ne pensait pas en manger une entière, non. Il voulait juste la traîner jusqu'au panier et là, miauler à ses frères. « Assez de téter notre pauvre mère. Vous ne voyez pas comme elle a maigri. Allez, venez, mangeons du poisson. C'est la nourriture des grands chats et des grands chats des ports. » Peu de temps avant de quitter le panier, sa mère lui avait miaulé très sérieusement. « Écoute, tu es agile et malin, c'est très bien, mais tu dois faire attention. Et je ne veux pas que tu sortes du panier. Demain ou après-demain, des humains vont venir décider de votre destin, le tien et celui de tes frères. » Ils vont sûrement vous donner des noms sympathiques et puis vous serez dans des familles sympathiques aussi et vous serez bien nourris. C'est une grande chance de naître dans un port, car dans les ports, on aime et on protège les chats. La seule chose que les humains attendent de nous, c'est que nous éloignions les rats, que nous chassions les rats. Eh oui, mon enfant, être chat de port, c'est une grande chance, mais tu dois faire attention, car il y a en toi un petit sens aventureux qui peut faire ton malheur. Ah là là, mon enfant, si tu regardes tes frères, tu verras qu'ils sont gris ou rayés comme les tigres. Toi, tu es né tout noir, sauf la petite tache blanche que tu as sous le menton. Et il y a des humains suffisamment stupides pour penser que les chats noirs portent malheur. C'est pourquoi, mon petit, il faut faire attention et ne pas sortir du panier. Mais Orbas, qui était en effet comme une petite boule de charbon, quitta le panier. Il voulait goûter une de ses têtes de poisson et il voulait voir le monde un peu plus loin. Plus loin? Non, il n'alla pas très loin. La queue dressée et vibrante, en trottant vers un étal de poissonniers, il passa devant un grand oiseau qui somnolait, la tête penchée. C'était un oiseau très laid avec une énorme poche sous le bec. Et soudain, le petit chat sentit que le sol s'éloignait de ses pattes et sans comprendre ce qui lui arrivait, il se retrouva en l'air en train de cabrioler. Et se souvenant de l'une de ses premières leçons de sa mère, il chercha un endroit pour retomber sur ses 4 pattes. Mais en bas, il n'y avait que l'oiseau qui l'attendait, le bec ouvert. Alors le petit chat tout noir tomba dans la poche et il y faisait noir et ça sentait terriblement mauvais. « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir » miaula-t-il désespéré. « Ah bon, tu parles. Quelle bête tu es !» croassa l'oiseau sans ouvrir le bec. « Laisse-moi sortir ou je te griffe » miaula-t-il. « Je crois que tu es une grenouille. »« Tu es une grenouille !» croassa l'oiseau toujours le bec fermé. « Mais non, idiot, oiseau idiot !» miaula le petit chat. « Oui, tu es une grenouille noire, c'est étrange d'ailleurs, » croassa l'oiseau. « Je suis un chat et je suis en colère, laisse-moi sortir ou tu vas le regretter, » miaula le petit chat, bientôt Orbas, en cherchant où planter ses griffes dans la poche sombre. « Tu crois que je ne sais pas distinguer un chat d'une grenouille? Les chats sont poilus, rapides et ils sentent la pantoufle. Toi, tu es une grenouille. Une fois, j'ai mangé des grenouilles. C'était pas mauvais, mais elles étaient vertes. Alors, dis donc, tu serais pas une grenouille vénéneuse quand même? Si, je suis une grenouille vénéneuse et en plus, je porte malheur. Quel problème! L'autre jour, j'ai avalé un hérisson vénéneux. Bon, ben, finalement, il ne m'est rien arrivé. Oh là là, quel problème! Je t'avale ou je te crache? Réfléchit l'oiseau. Mais il ne croissa rien de plus car il s'agita, battit des ailes et ouvrit finalement le bec. Couvert de bave, le petit Orbas sortit la tête et sauta par terre. Il vit alors le garçon qui l'avait sorti du bec du pélican. « Ah, mais tu es aveugle ou quoi, pélican imbécile ? Viens, mon chat, viens, petit chat. Un peu plus, tu finissais dans le ventre de cet oiseau. » Et l'enfant prit le chat dans ses bras. C'est ainsi qu'avait commencé cette amitié qui durait depuis 5 ans. Mais ce jour-là, le jour du départ, le baiser de l'enfant sur sa tête éloigna les souvenirs du chat. Et il vit son petit maître enfiler son sac à dos, marcher vers la porte et lui dire encore adieu. « À dans 2 mois, je penserai à toi tous les jours, Zorbas, je te promets. »« Au revoir, Zorbas, au revoir, mon gros !» crièrent les 2 petits frères du garçon. Le chat grand, noir et gros entendit qu'on fermait la porte à double tour et il courut jusqu'à la fenêtre sur la rue pour voir la famille, sa famille adoptive, avant qu'elle ne s'éloigne. Le chat grand, noir et gros poussa un soupir de satisfaction. Pendant 2 mois, il allait seigneur et maître de l'appartement. Un ami de la famille viendrait tous les jours lui ouvrir une boîte de nourriture et changer sa litière. Alors, 2 mois pour se prélasser dans les fauteuils, sur les lits, sortir sur le balcon, grimper sur les toits, aller jusqu'aux branches du vieux marronnier, descendre le long de son tronc jusqu'à la cour, retrouver les chats du quartier. Il n'allait pas s'ennuyer, pas du tout. C'est ce que pensait Zorbas, le chat grand, noir et gros, au départ de son petit maître. Mais il ne savait pas encore ce qui allait lui tomber dessus très bientôt. Hambourg. Kenga déplia ses ailes pour prendre son envol. Mais la vague fut plus rapide et la recouvrit tout entière. Quand elle sortit de l'eau, la lumière du jour avait disparu. Et après avoir secoué énergiquement la tête, elle comprit que la malédiction des mers obscurcissait sa vue. Kenga, la mouette aux plumes argentées, plongea sa tête dans l'eau à plusieurs reprises jusqu'à ce que quelques étincelles de lumière arrivent à ses pupilles couvertes de pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, collait ses ailes à son corps. Et elle essaya de remuer les pattes dans l'espoir de nager vite, vite et de sortir du centre de cette vague noire. Tous les muscles tétanisés par l'effort, elle finit par atteindre la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l'eau propre. Lorsque, à force de cligner des yeux et de replonger sa tête sous l'eau, elle réussit à nettoyer ses paupières, elle regarda le ciel et ne vit que quelques nuages qui s'interposaient entre la mer et l'immensité de la voûte céleste. Ses compagnes de la bande du phare du sable rouge devaient être loin, très loin. C'était la loi. Elle aussi, elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles, et malgré son désir de descendre leur apporter une aide aussi inutile qu'impossible, elle s'était éloignée, respectant la loi qui interdit d'assister à la mort de ses compagnes. Ce jour-là, les ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons, ou bien elles mouraient lentement, asphyxiées par le pétrole, qui, en glissant entre leurs plumes, bouchait tous leurs pores. C'était le sort qui l'attendait et elle désira disparaître rapidement dans le dosier d'un grand poisson. Ouais, plutôt que la tache noire, plutôt que la peste noire. Tandis qu'elle attendait l'issue fatale, Kenga maudit les humains. « Enfin bon, pas tous, faut pas être injuste, » cria-t-elle faiblement. Souvent, elle avait vu d'en haut comment les grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d'une substance épaisse et pestilentielle qui était entraînée par les vagues et qui dérivait comme cela sur l'océan. Mais elle avait vu aussi que parfois de petites embarcations s'approchaient des pétroliers et les empêchaient de vider leurs réservoirs. Malheureusement, ces petits bateaux aux couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivaient pas toujours à temps pour empêcher qu'on empoisonne les mers. Alors, Kenga passa les heures les plus longues de sa vie, posée sur l'eau, à se demander, atterrée, si ce n'était pas la plus terrible des morts qui l'attendait. Pire que d'être dévoré par un poisson, pire que l'angoisse de l'asphyxie, mourir de faim. Désespérée à l'idée d'une mort lente, elle remua et se rendit compte que finalement le pétrole n'avait pas totalement collé ses ailes contre son corps. Ses plumes étaient imprégnées de cette substance épaisse, mais au moins elle pouvait quand même étendre les ailes. « J'ai peut-être encore une chance de sortir de là. » Et qui sait si en volant haut, très haut, le soleil ne fera pas fondre le pétrole ? C'était une histoire racontée par une vieille mouette des îles Frisonnes qui lui revenait à la mémoire. Cela parlait d'un humain nommé Icare qui, pour réaliser son rêve de voler, s'était fabriqué des ailes avec des plumes d'aigle et avait volé très haut, si près du soleil, que la chaleur avait fait fondre la cire qui collait les plumes. Alors lui, il était tombé. Kenga se disait qu'en battant ses ailes, peut-être elle arriverait, en s'approchant du soleil, à se débarrasser du pétrole. Alors elle s'élança, elle s'éleva de quelques centimètres, mais pas bien loin. Elle recommença, elle plongea, remua encore ses ailes. Cette fois, elle s'éleva d'un mètre. Ce maudit pétrole collait toutes les plumes de sa queue, de sorte qu'elle ne pouvait pas guider son ascension. Elle replongea et, avec son bec, retira la couche de saleté qui couvrait sa queue, mais en même temps, elle arrachait des plumes, si bien que sa queue était moins sale, mais moins fournie. Au cinquième essai, tout de même, Kenga réussit à s'envoler. Elle battait des ailes désespérément, car le poids de la couche de pétrole l'empêchait de planer. Un seul arrêt, et elle tomberait. Comme c'était difficile, comme c'était fatigant. Enfin, par chance, elle était jeune et ses muscles répondaient bien. Elle vola très haut. Sans cesser de battre des ailes, elle regarda vers le bas et vit à peine la côte, très loin, comme une ligne blanche. Elle vit aussi de nouveau quelques bateaux qui étaient comme de minuscules objets sur une nappe bleue. Elle monta encore plus haut, mais les effets du soleil ne l'atteignaient pas. Ah, peut-être que les rayons donnaient une chaleur trop faible, peut-être que la couche de pétrole était trop épaisse. Enfin, elle comprit qu'elle n'aurait pas suffisamment de force pour continuer à battre des ailes bien longtemps et elle vola vers l'intérieur des terres en suivant la ligne verte et sinueuse de l'Elbe à la recherche d'un endroit pour se poser. Son battement d'ailes devint plus lourd, plus lent. Elle perdait des forces. Elle ne volait plus très haut. Dans un effort désespéré pour reprendre de l'altitude, elle ferma les yeux et battit des ailes avec ses dernières énergies. Elle vola ainsi les yeux fermés et quand elle les rouvrit, elle était au-dessus d'une haute tour ornée d'une girouette d'or. « Saint-Michel » cria-t-elle en reconnaissant la tour de l'église de Hambourg. Ses ailes refusèrent de la porter plus loin. La fin d'un vol ? Alors, pendant ce temps, le chat, grand, noir et gros, prenait le soleil sur le balcon en ronronnant et en pensant comme c'était bon d'être là, à recevoir les rayons du soleil, le ventre en l'air, les quatre pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il retournait paresseusement présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d'un objet volant qu'il ne put pas identifier et qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses quatre pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver la mouette qui s'abattait sur le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d'une substance noire et malodorante. Zorba s'approcha et la mouette essaya de se redresser en traînant ses ailes. « Ce n'était pas un atterrissage très élégant, lui miaula-t-il. « Ben, je regrette, hein, je ne pouvais pas faire autrement, » croassa la mouette. « Dis donc, tu es dans un drôle d'état. Qu'est-ce que tu as sur le corps? Et tu sens vraiment mauvais. J'ai été atteinte par une vague noire, la peste noire, la malédiction des mers. Je vais mourir !» croassa plaintivement la mouette. « Mourir? Mais ne dis pas ça, tu es fatiguée et sale, mais c'est tout. Tu pourrais aller aux eaux, c'est pas très loin. Il y a des vétérinaires qui pourront t'aider, » miaula Zorba. « Je ne peux pas. C'était mon dernier vol. Je viens de tomber, » croassa la mouette, une voix presque inaudible, et elle referma les yeux. « Non, ne meurs pas, ne meurs pas. Repose-toi un peu et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim. Attends, je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, » miaula Zorba en s'approchant de la mouette. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête. Cette substance qui la couvrait avait un goût horrible. Quand il lui passa la langue sur le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était vraiment de plus en plus faible. « Écoute, écoute mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaye de te reposer un peu. Je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade, » miaula Zorba en grimpant sur le toit. Il s'éloignait vers le marronnier quand il entendit la mouette l'appeler à nouveau. « Tu veux que je te laisse un peu à manger ?» miaula-t-il, soulagé. « Bon, écoute, je vais pondre un œuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un œuf. Alors, chat, mon ami, je vois que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre trois choses. Tu vas le faire ? Tu vas le faire ? Demanda-t-elle en secouant maladroitement ses pattes dans un effort manqué pour se redresser. Zorba pensa que la pauvre mouette délirait et qu'un oiseau dans un état aussi lamentable, malheureusement, ne pouvait en effet que lui demander d'être généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant repose-toi, miaula-t-il avec compassion. « Je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi que tu ne mangeras pas l'œuf, dit-elle en ouvrant les yeux. « Je promets de ne pas manger l'œuf. « Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin, croassa-t-elle en soulevant la tête. « Je promets de m'occuper de l'œuf jusqu'à la naissance du poussin, miaula Zorbas. Et promets-moi que tu lui apprendras à voler, croassa-t-elle en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorbas pensa que non seulement cette malheureuse mouette délirait, mais qu'elle était complètement folle. Je promets de lui apprendre à voler. Et maintenant repose-toi, je vais chercher de l'aide, miaula Zorbas en sautant sur le toit. Kenga regarda le ciel, remercia les bons vents qui l'avaient accompagnée jusque-là, et au moment où elle allait pousser son dernier soupir, elle pondit un petit œuf blanc taché de bleu, qui roula à côté de son corps imbibé de pétrole. Fin de la première partie. C'est donc l'œuf né de la mouette Kenga qui est désormais sur le balcon du chat Zorbas à Hambourg. Et le chat Zorbas ne va plus avoir qu'à, en effet, tenir ses promesses puisqu'il a promis à la mouette de ne pas manger l'œuf, de le couver bien sûr pour que le poussin naisse et d'apprendre à voler à ce fameux poussin né de la mouette Kenga. Donc on est dans le conte bien sûr et pour poursuivre dans le conte, on va prendre un petit peu de musique en compagnie de Jacques Prévert. Jacques Prévert qui nous raconte une autre petite histoire en sortant de l'école. Merci Jules.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture. Et on bateau à voile.
merci Jacques Prévert, merci Yves Montand. On peut faire le tour de la terre, le tour de la mer, à pied et en bateau à voile, c'est mieux qu'en voiture. Et vous savez, Jacques Prévert, il avait cette maison tout au bout du Cotentin, là, dans un coin perdu. Il a dû en voir des mouettes, il a dû en voir passer des mouettes qui allaient au rassemblement des mouettes de Biscaye. Mais il n'a peut-être pas vu le Chasorbas qui allait en effet promettre et tenir ses promesses à la mouette Kenga pour assurer la survie de l'œuf. Alors, continuons. Nous avons laissé Zorbas quitter Kenga pour aller chercher des informations. Et en effet, on va à ce titre faire la connaissance de la société des chats de Hambourg autour de Zorbas. Kenga est morte, oui, mais son œuf est là sur le balcon et ça va être à Zorbas et à l'Assemblée des chats de Hambourg de mener à bien la promesse de Zorbas de couver l'œuf et d'élever le poussin qui en sortira. Zorbas descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au Cuneo, un restaurant italien du port. Deux chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. « Hé, mon pote, tu vois ce que je vois ? C'est un joli petit gros, miaula l'un des chats. « Ouais, mon vieux. » Comme il est noir, c'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron. Où tu vas, petite boule de goudron ? Demanda l'autre. Même préoccupé par la mouette, Zorbas n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ces deux voyous. Alors il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît ? J'en ai 9 autres du même modèle. Tu veux les essayer ? » miaula-t-il très calmement. Le chat qui avait la griffe sous le nez avala sa salive avant de répondre sans quitter la griffe des yeux. « Non, non, chef, quelle belle journée, pas vrai ?»« Et toi, qu'est-ce que tu en dis ?» demanda Zorbas à l'autre chat. « Moi aussi, je dis que c'est une bien belle journée, idéale pour se promener. » Bon, cette affaire réglée, Zorbas reprit donc son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorbas miaula 3 fois et attendit, assis sur le seuil. Peu après, Secretario, un chat de gouttière, très maigre, avec seulement 2 poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, miaula-t-il en guise de salut. » Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorbas le coupa. « Je dois miauler avec Colonel, c'est urgent. »« Urgent, ah, vous avez toujours des urgences de dernière minute. Bon, je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence, miaula Secretario. » Et il rentra dans le restaurant. Colonel était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait, d'autres soutenaient qu'il était même encore plus vieux. Mais cela n'avait pas d'importance. Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes et même si il ne les résolvait pas sans aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par ses talents, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secretario revint en courant. « Bon, suis-moi, Colonello va te recevoir exceptionnellement. » Zorbas le suivit. Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et en bas, ils trouvèrent Colonel, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons des bouteilles de champagne. « Ah, porca miseria, les rats ont mangé, ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. Ah, il faut que je trouve le moyen de le dire au patron. » « Bon, Zorbas, caro amico !» salua Colonel, qui avait l'attitude de miauler des mots en italien. « Bon, excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils, miaula Zorbas. « Je suis là pour ça, caro amico. Secretario, serre un peu à mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a donné ce matin, » ordonna Colonel. « Mais vous les avez déjà toutes mangées, » se plaignit Secretario. Zorbas remercia en disant qu'il n'avait pas faim et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable et les promesses qu'il avait bien été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses moustaches longues et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria, il faut se débrouiller pour que cette pauvre moumette puisse reprendre son vol. »« Oui, mais comment ?» demanda Zorbas. « Le mieux, c'est de consulter Je sais tout, » indiqua Secretario. « Ben oui, c'est aussi ce que je pensais. Bon, alors, Alors, consultez, je sais tout. C'est une bonne idée. Bon, dans tous les cas, je vais aller voir Je sais tout, » approuva Zorbas. « Bon, on va y aller ensemble. Les problèmes d'un chat du port sont les problèmes de tous les chats du port, » déclara solennellement Colonel. Les trois chats sortirent donc de la cave ensemble et coururent à travers le labyrinthe des cours de maison alignés en face du port jusqu'au temple de Je sais tout. Je sais tout habitait un endroit assez difficile à décrire, un genre de bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde ou le laboratoire d'un savant fou, inventeur d'engins impossibles à nommer. Ce n'était rien de tout cela, c'était beaucoup plus de ce que cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du Port. Et en effet, c'était le lieu de vie de son propriétaire, Harry, un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur toutes les mers, s'était employé à réunir une somme d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'était installée dans ses eaux, Harry avait décidé de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir un bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il avait trouvé, dans une rue du port, une maison de 3 étages, qui serait bientôt trop petite pour exposer toutes ses collections, mais il avait loué aussi la maison voisine à 2 étages et même une 3e maison. Il avait finalement rangé ses objets, enfin rangé selon un ordre très particulier, et ces 3 maisons étaient donc réunies par des couloirs, des escaliers étroits, des endroits pas possibles avec des millions d'objets pas possibles. Des chapeaux à bord souple que le vent emporte, des gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, des feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses, des télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, des boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, des éléphants de bois presque grandeur nature, des girafes empaillées, un ours polaire naturalisé, des ventilateurs. Tiens, on devrait aller le voir pour chercher quelques ventilateurs. Pour défier la brise des crépuscules tropicaux, des hamacs de jute, des marionnettes de Sumatra et d'ailleurs, des projecteurs de diapositives, des romans, oh oui, au moins 50 000 dans 47 langues, des maquettes de la tour Eiffel, dont une construite avec des aiguilles à coudre, des canons de bateaux corsaires anglais qui avaient attaqué Cartagena de Indias, des ancres trouvées au fond de la mer du Nord et d'ailleurs, des tableaux de coucher de soleil, des machines à écrire, des caleçons longs de flanelle pour les hommes de la mer, des fracs pour les nains, des pipes d'écume de mer, un astrolabe qui s'obstinait à indiquer la position de la Croix du Sud et elle seule, des coquillages géants, des kilomètres de soie rouge, des écoutilles de sous-marins et encore des tas d'autres choses que nous ne nommerons pas. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et une fois à l'intérieur, on pouvait se promener et chiner ce qu'on pouvait dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, de couloirs étroits et d'escaliers. Harry avait 2 mascottes, un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée et qui parlait évidemment très mal, qui buvait de la bière et qui trichait aux cartes. La 2e mascotte, c'était Je sais tout. Je sais tout, un chat gris, petit et maigre, qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres stockés dans les 3 maisons. Colonel, Secretario et Zorbas entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ah non, Harry n'était pas là derrière le comptoir parce que ils auraient bien aimé. Il avait toujours des paroles affectueuses et même des saucisses pour eux. Il y avait seulement Mathias. Mathias qui les traitait de sac à puce. Vous oubliez de payer l'entrée. Bon, et nous, depuis quand on entre? Depuis quand on paye l'entrée? Ben, il y a écrit, hein, entrée 2 marques. Alors, c'est pas parce que vous êtes des chats que vous allez entrer gratuite, gratis. 8 marques. Allez, monsieur le singe, je crains que les mathématiques ne soient pas votre forme, Yola Secretario. Bon, enfin, c'est pas grave. De toute façon, on entre sans payer. Payé ou fichu le camp ? Zorbas sauta sur le comptoir et regarda fixement le chimpanzé dans les yeux. Il soutint son regard. Finalement, Mathias se mit à cligner des yeux. « Bon, bon, d'accord. Bon, vous pouvez y aller. » Zorbas sortit une griffe de sa patte droite et lui dit, comme aux autres précédemment, « Tu te rappelles, j'en ai 9 autres pareils. Tu peux les imaginer plantés dans ton cul rouge que tu as toujours à l'air ?»« Mais oui, je vous ai dit, pour une fois, je ferme les yeux. Bon, vous pouvez passer et aller voir votre copain, je sais tout. » Les 3 chats, la queue orgueilleusement dressée, disparurent dans le labyrinthe des couloirs. Et voilà, ils rencontrèrent « Je sais tout », un chat qui sait tout. « Terrible, terrible, il est arrivé quelque chose de terrible !» miaula « Je sais tout » en les voyant. Ils se promenaient nerveusement devant un énorme livre ouvert sur le sol. Et de temps en temps, ils tournaient les pages. Il avait l'air inconsolable. « Qu'est-ce qui est arrivé, miaula Secretario ?»« Ben oui, c'est aussi ce que j'allais demander, lui dit Colonello. » « Mais ce n'est sûrement pas si grave, » suggéra Zorbas. « Pas si grave. Mais si, c'est terrible. Les maudites souris ont mangé une page entière de l'Atlas. La carte de Madagascar a disparu. C'est terrible !» insista Je sais tout en tirant sur ses moustaches. « Bon, secrétario, rappelez-moi qu'il faut organiser une battue contre les mangeurs de cartes de Madagascar. » oui, donc manger les mangeurs de cartes, chasser les mangeurs de cartes. Et là, nous avons un problème plus grave encore, s'exclama Colonel. Bon, ben, je vais essayer de te donner un coup de main, dit Je sais tout. Alors, expliquez-moi. Voilà, dit Zorbas, et il lui raconta la triste histoire de la mouette. Je sais tout, écouta avec attention. Il approuvait en remuant la tête, et quand les mouvements de sa queue exprimaient avec éloquence ses sentiments d'angoisse, eh bien, il miaulait en répondant à Zorbas. « Voilà, je l'ai laissé comme ça, très mal, il y a un instant, dit Zorbas. « Terrible, terrible histoire, et oui, terrible histoire, laissez-moi réfléchir. » Mouette, pétrole, pétrole, mouette, mouette malade, oui, c'est ça. Ben, il faut consulter l'encyclopédie. La quoi ? L'encyclopédie, le livre du savoir. Il faut chercher dans les tomes 13 à 16 les lettres M pour mouette et P pour pétrole, dit Je sais tout d'un ton décidé. Bon, voyons l'encyclopédie. Alors, Je sais tout grimpa sur un énorme meuble dans lequel étaient alignés de gros livres à l'air imposant. Et après avoir cherché les lettres M et P, il fit tomber les 2 volumes concernés. Il redescendit et d'une griffe courte et usée à force de feuilleter les livres, il tourna les pages. Les 3 chats gardaient un silence respectueux tandis qu'ils marmottaient des miaulements presque inaudibles. Alors... comme c'est intéressant, Merlan, Migration, Milan. Ah, le Milan est un oiseau terrible, terrible, terrible. Alors, ce n'est pas le Milan qui nous intéresse, continuons. Continuons, l'encyclopédie. Voilà, morue, mouette, on y est. Mais ce que l'encyclopédie disait des mouettes ne leur fut pas très utile. Ils apprirent que la mouette qui les préoccupait appartenait à l'espèce argentée, appelée ainsi à cause de la couleur de ses plumes. Ce qu'ils trouvèrent sur le pétrole ne les amena pas non plus à savoir comment aider la mouette. Même s'il leur fallut supporter une interminable dissertation de je sais tout sur la guerre du pétrole des années 70. « Mais non, mais nous en sommes toujours au même point, miaula Zorbas. Ah bah oui, c'est terrible, terrible, c'est la première fois que l'encyclopédie me déçoit, dit je sais tout, désolé. » Bon, mais il n'y a pas des conseils pratiques pour enlever les taches de pétrole, par exemple? Ah ben voilà, oui, peut-être. Alors, je prends la suite. Le tome 4, la lettre D, détachant. Ah non, ça, je sais tout. Mais vous vous rendez compte que... Bon. Alors, la page consacrée au mot détachant leur a pris la façon d'enlever les taches de confiture, d'encre de Chine, de sang, de sirop de framboise. Mais on ne trouva pas les taches de pétrole. Ah si, ça y est, on nettoie la surface affectée avec un linge humecté de benzine. Bon, bah d'accord, mais alors où on va trouver la benzine? Bah, il doit y en avoir dans la cave du restaurant. Bon, alors, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Vous humectez convenablement votre queue avec la benzine et ensuite vous irez vous occuper de cette pauvre mouette, répondit Colonello en regardant ailleurs. Ah non, non, ça pas question, hein, protesta Secretario. Bon, je vous rappelle qu'au menu de ce soir, il y a une double portion de foie à la crème, susurra Colonello. Du foie à la crème, oui, mais quand même, tremper ma queue dans la benzine. Je sais tout, décida de les accompagner, et les quatre chats sortirent du bazar en courant. À leur passage, le chimpanzé, qui venait de boire une bière, leur adressa un rot sonore. Donc, ils passèrent au restaurant faire cette espèce de prélèvement sur la benzine, mais en arrivant sur le balcon, les quatre chats comprirent qu'il était trop tard. Colonello, je sais tout, et Zorbas, avec Secretario qui agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine, regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette. Bah, on va lui fermer les ailes, c'est ce qu'on a à faire dans ces cas-là, affirma Colonello. Et surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole, ils replièrent ses ailes le long de son corps, et là, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. L'œuf! Elle a réussi à pondre son œuf! S'exclama Zorbas. Ah, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, caro amico. Oui, une drôle d'histoire, remarqua Colonello. Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf? S'interrogea Zorbas, de plus en plus angoissé. Non, avec un œuf, on peut faire de plein de choses. Une omelette, par exemple, proposa Secretario. Mais non, j'ai promis de ne pas le manger. Bon, alors, un coup d'œil dans l'encyclopédie nous dira comment préparer la meilleure des omelettes. Mais non, mais pas question. Voyons, j'ai promis à cette pauvre mouette que je m'occuperai de l'œuf et du poussin. Une promesse sur l'honneur faite par un chat du port engage tous les chats du port. Tous les chats sont engagés dans cette promesse. Bon, mais nous ne savons pas comment on s'occupe d'un œuf. Je n'ai jamais eu d'œuf, moi, miaula Zorbas, désespéré. Alors les chats regardèrent à nouveau je sais tout. Peut-être que là-dessus, il aurait des choses à dire dans son encyclopédie. Ben oui, je vais aller consulter le tome 15, la lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf. Pour l'instant, je conseille la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps, indiqua je sais tout sur un ton pédant et didactique. C'est-à-dire se coucher sur l'œuf sans le casser, conseilla Secretario. Bon, d'accord. Alors, il va se coucher sur l'œuf sans le casser. Zorbas, tu restes là, tu restes près de l'œuf. Et nous allons accompagner je sais tout pour consulter son encyclopédie et nous reviendrons ce soir avec les informations et nous donnerons une sépulture à cette pauvre mouette. Voilà, les trois chats partirent. Zorbas resta sur le balcon avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention. Il attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait un peu ridicule. Il songeait aux railleries des deux voyous qu'il avait affrontés le matin. Et il se disait qu'il allait falloir protéger cet œuf, oui, contre toutes les agressions éventuelles. Mais une promesse est une promesse. Et réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit avec son œuf blanc tacheté de bleu, tout contre son ventre. C'est presque la fin de la première partie. Oh non, on continue encore un peu quand même. On continue un peu, encore un peu, pour dire que, bah oui, À la lumière de la lune, Zorbas, comme quand il était au soleil, continua à couver l'œuf. Et les autres chats, les trois autres chats, lui, ils nous disent qu'ils vont enterrer la mouette au pied du marronnier. Cette mouette dont nous ne connaissons pas le nom, disent-ils. Nous, nous savons qu'elle s'appelle Kenga, mais eux ne le savent pas. Cette mouette, ils l'enterrent au pied du marronnier avec tout le respect qu'ils lui doivent. Cette mouette qui a pondu son dernier œuf, cette mouette à qui Zorbas a promis de s'occuper de l'œuf qu'elle a pondu. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'encyclopédie ? Promesse difficile à tenir, a dit je sais tout. Mais c'est bien ça. J'ordonne que notre camarade Zorbas n'abandonne pas l'œuf jusqu'à la naissance du poussin. Et j'ordonne que l'encyclopédie puisse ensuite, à la naissance du poussin, dire comment on lui apprendra l'art de voler. Puisque nous disons adieu à cette mouette, nous promettons de tenir la promesse de Zorbas. Nous tendons nos coups vers la lune, nous miaulons le chant d'adieu des chats du port. Et au pied du vieil arbre, les quatre chats se mettent à miauler une triste litanie. Leurs miaulements sont si forts que bien vite tous les chats des alentours se joignent à eux et les habitants de Hambourg se demandent ce qui a bien pu se passer pour que les chats du port se mettent à miauler de cette façon, avec même en accompagnement le pépiment plaintif des canaris en cage ou des moineaux dans leur nid, avec le coassement triste des grenouilles et même jusqu'au glapissement désordonné de Mathias le chimpanzé. Quelle était donc cette tristesse qui s'était emparée des animaux de Hambourg, qui pleuraient la mouette, mais qui en même temps promettaient la vie au poussin qui sortirait de son œuf. Voilà, cette fois je vous quitte avec la promesse des chats de Hambourg. Et nous allons les retrouver la semaine prochaine pour savoir comment ils vont faire pour couver l'œuf, élever le poussin et lui apprendre à voler dans notre histoire de l'histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda sur Radio Galère. À bientôt, à la semaine prochaine. Soyez presque aussi solidaires que les chats de Hambourg. Souvenez-vous qu'on n'abandonne pas. On continue le combat, même pour les mouettes et même pour les chats. À bientôt!
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.